Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, et nous allons commencer la lecture à partir du verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli ou disparaîtra, c'est ça. Voilà. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais lorsque je connaîtrai, mais alors je connaîtrai, comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Gloire au Seigneur, c'est la voie par excellence.
Amen.
Gloire au Seigneur. J'aurais pu lire le dernier verset d'ailleurs du chapitre précédent qui nous le dit. Alors, les traductions récentes. On traduit le mot agapé par amour, bien sûr, non pas tort. Les traductions anciennes indiquait le mot « charité ». C'était pas si mal que ça, finalement. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'amour, il est mis à toutes les sauces. Quoi. Hein? Alors bien évidemment que la charité, il ne s'agit pas, bien sûr, de la petite pièce qu'on peut donner à un mendiant. Hein, ce n'est pas du tout ça. Il s'agit de ce qu'il y a de plus grand au niveau de l'amour, hein, qui est inaccessible même, on pourrait dire, à l'humain irrégénéré. Là, il s'agit de l'amour de Dieu, bien évidemment, l'amour que Dieu est capable de répandre par son esprit dans le cœur des chrétiens, des croyants, des enfants de Dieu. Alors, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Voilà. Donc, la chose est des plus claires. Il existe des sentiments et même un dévouement qui pourrait aller jusqu'à la mort. Mais sans cette dimension d'amour dont nous parle la parole de Dieu, tout n'est que vanité et poursuite de vent aux yeux de Dieu. Ce que l'homme sans Dieu appelle amour n'a en principe rien, pas grand-chose à voir avec l'amour divin. Il n'est pas du tout à la même dimension, hein, bien sûr. On pourrait voir de l'amour dans le comportement humain. Il y a de l'amour quelque part dans les couples. Hein, c'est bien, c'est pas mal. Il y a de bons sentiments, il y a de la solidarité dans le monde, il y a de la fraternité, oui, Il y a des œuvres même, on appelle, dites de charité. Bien évidemment. Mais nous sommes conscients que toutes ces manifestations humaines peuvent exister sans qu'il y ait vraiment cette dimension de l'agapé, de l'amour divin. Tout ce que nous avons l'habitude d'appeler amour, qui est dans les profondeurs, en quelque sorte, de notre être, dans nos actes visibles, on pourrait dire aussi, ça peut n'être qu'une pâle imitation, bien sûr, de l'amour dont la parole de Dieu nous parle. D'abord parce que le comportement humain contient, malheureusement, presque toujours un petit reste d'égoïsme. Vous savez, on aime toujours un peu pour soi. On aime toujours un peu pour soi. Il me reste, moi, quelques souvenirs de Pierre Nicole, qui a été l'un des pionniers, bien sûr, dans la région de Rouen pour annoncer l'Évangile. Hein, on a de l'âge, alors on a eu beaucoup de monde. Hein, je me souviens, quand il faisait le parallèle avec l'amour de Dieu, il s'écriait « Le cœur humain ne peut pas aimer ». Il disait « Le cœur humain ne peut pas aimer ». Bon. Il est vrai que l'amour en tant que comportement humain peut être partiel, peut être fragile, il peut être instable, il peut être passager, il est à la dimension de la nature humaine, bien sûr. D'ailleurs en France, il paraît que 46% des mariages se terminent par un divorce. Vous vous rendez compte ? Eh oui, c'est de pire en pire, je crois, d'ailleurs, à ce sujet-là. Évidemment, ils se marient pas, donc tout va bien. Que le Seigneur leur fasse grâce et les éclaire. Amen. Ce monde est malheureux, il est malade. L'amour dont nous parle notre texte est profondément différent des sentiments humains. Il est un amour à la dimension de notre Père Céleste, qui est esprit. Donc, on est là à un niveau supérieur. Ce qui n'empêche pas que l'affection naturelle que nous pouvons avoir pour les autres n'est pas une mauvaise chose. Vous savez, même après 63 ans de mariage, on a le droit de se dire « je t'aime ».
Amen. Amen.
Et il arrive qu'elle se réveille la nuit et qu'elle me dise « je t'aime ».
Amen.
Merci Seigneur. Vous voyez. Mais, vous savez, en français, on dit « j'aime mon épouse », on dit « j'aime les voyages », on dit « j'aime les confitures ». Ouais. Pour traduire l'amour de Dieu dans notre langue, il n'existe pas de mot assez fort, hein, parce que l'amour de Dieu, c'est sa nature, c'est son essence. 1 Jean 4,16 « Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Non seulement Dieu a des sentiments pour nous, mais bien plus, on ne peut pas séparer sa personne de l'amour. C'est sa nature divine. Son amour n'est pas un sentiment qu'il a manifesté d'une manière épisodique, de temps en temps. Ah non ? Et sans la connaissance de Dieu, l'être humain ne peut pas aimer comme Dieu. Comme Dieu le lui demande. Comme il lui commande. Et d'ailleurs écrit, 1 Jean 4,8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Alors on remarque dans ce texte, le mot qui était traduit par « connu » nous parle pas d'une connaissance superficielle. Hein. C'est le grec « ginosho » qui est employé pour le rapprochement de l'homme et de la femme. La pensée biblique nous parle d'une grande intimité, d'un grand rapprochement avec Dieu. Soyons sans illusion. L'amour, cette dimension d'amour, a son origine en Dieu et pas en nous. Elle a son origine en Dieu. 1 Jean 4,10. Voici en quoi consiste l'amour. Ah, ça nous révèle. ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son fils comme victime expiatoire ou littéralement comme victime de propitiation pour nos péchés. Alors ça nous fait penser au propitiatoire. Hein, dans le tabernacle, vous savez, le couvercle de l'arche, là où le souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance mettait le sang du sacrifice. Hein. Il a envoyé son fils comme victime expiatoire, victime de propitiation pour nous, et ce n'est qu'en Jésus, ce n'est qu'en ses souffrances volontaires, en sa mort expiatoire, que nous connaissons l'amour. Que nous connaissons l'amour. 1 Jean 3,16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. L'amour ne peut pas être séparé du nom de Jésus-Christ. C'est pas possible, hein, car Jésus est la révélation du Dieu qui est d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous savez que ce quiconque, c'est chacun. C'est Jonathan, c'est Enoch, etc. Bien sûr. L'amour, c'est la manifestation d'une vie qui s'offre. Qui s'offre. Et cet amour-là, il n'est présent que dans la mesure où Jésus prend pied et place dans nos cœurs, dans nos vies. Cet amour-là n'est présent que dans la mesure où Jésus prend pied et place dans nos cœurs, dans nos vies. En dehors de Jésus, d'ailleurs, personne n'a pu vivre la loi, n'a pu vivre les commandements divins. Hein ? Lui, par amour, il s'est offert pour nous. Ce n'est qu'en manifestant la vie de Christ que nous entrons, nous, dans le plan de Dieu. Jean 17, 3 nous dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu et celui que tu as envoyé. » L'amour est l'accomplissement de la loi. Et d'ailleurs, on remarque que Jésus a pu dire dans Jean 13, 34 « Je vous donne un commandement nouveau. » Je vous donne un commandement nouveau. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Vous réalisez la pensée là ? Comme il nous a aimés ? Vous ne pouvez pas, c'est pas vrai. Par votre nature, vous n'y arriverez pas. Vous avez besoin que le Saint-Esprit mette en vous cette dimension d'amour. Amen. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Hein, ça va beaucoup plus loin, bien sûr, que le commandement légal qui dit « Aimeras ton prochain comme toi-même ». Ça va encore plus loin. Nous sommes là sous la grâce. Que le Seigneur nous aide et nous fasse grâce. C'est un amour qui va très loin jusqu'au don de sa vie. L'amour du Sauveur n'est pas un modèle que nous pouvons imiter par nos propres forces. Il y a là quelque chose, vous comprenez bien, de plus grand par l'Esprit en Christ et rétablit en nous l'image divine. C'est quelque chose d'important, il ne s'agit pas pour nous d'être un chrétien du dimanche matin, hein. C'est pas ça, on est appelé à beaucoup plus. Hein. On est appelé à nous identifier avec Christ. Nous sommes appelés à lui laisser prendre toute la place dans notre cœur. L'apôtre disait, c'est plus moi qui vis, c'est Christ. Amen. La barre est haute, mais nous avons besoin d'avoir à cœur de vivre et de manifester la vie de Jésus-Christ. Le moi a besoin d'être dans un état de mort, mais nous sommes appelés à vivre la vie du Seigneur. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Cela signifie que notre amour pour Dieu a sa source, vous me suivez bien, uniquement dans l'amour qu'il a pour nous. La source, elle est là. Alors pour l'exprimer autrement, nous pourrions dire que l'amour que nous pouvons manifester ne peut être que l'acceptation et la réception du Saint, par le Saint-Esprit de l'amour de Dieu. Hein, c'est ce que dit d'ailleurs Romains 5:5, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
Amen.
L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, pour aimer Dieu et son prochain, eh bien, ça ne va être que la manifestation de l'amour dont Dieu nous aime. Dieu donne ce qu'il ordonne. Quelqu'un a dit ça ? Et c'est très juste. C'est très juste. Nous ne pouvons pas nous glorifier d'aimer, d'ailleurs. Il y a des gens, quelquefois, on a l'impression qu'ils se glorifient un peu. Oh, ils ont l'amour de Dieu dans leur cœur, ils se glorifient. Mais attends. Car qu'est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies comme si tu ne l'avais pas reçu ? Alors, nous ne sommes pas appelés à nous glorifier si nous manifestons quelque amour à l'égard de ceux qui nous entourent. L'amour dont nous parle le monde, vous savez, c'est très souvent le produit d'un désir charnel, ou au mieux, le produit des sentiments du cœur humain. Bien sûr, la parole de Dieu, elle nous révèle la dimension spirituelle de l'amour de Dieu. Elle nous parle d'ailleurs du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il y a bien sûr toutes les facettes du fruit de l'esprit, hein, la joie, la paix, etc. Hein, mais la racine, c'est l'amour. La racine, c'est l'amour. Alors la chair, elle est capable de produire beaucoup de choses quand même. On va dire, c'est même pas des imitations, je ne sais pas, c'est de l'ersace souvent. C'est pas tout à fait ça. Hein? On aime ceux qui nous aiment. Le Seigneur l'a dit. Est-ce que vous faites formidable? Les païens aussi aiment ceux qui les aiment. Le Seigneur l'a dit, hein, c'est dans Luc 6, 32. Bon, on aime ceux avec qui on a des affinités, comme on dit. Hein? Ceux avec lesquels on a des points communs, ceux avec lesquels on peut parler. On a des conversations, on a des, ce qu'on appelle des convergences. Mais l'amour, c'est beaucoup plus que ça, hein, quand même. Je vais vous dire quelque chose. Dans une grande assemblée que je connais bien, il y a quelqu'un qui est venu un an, sans qu'aucun chrétien ne lui adresse la parole. Ça vous dit rien ? Pourquoi ? Bon, pas parce que les gens étaient plus mauvais que les autres. Seulement le culte fini. Et ça, on a ses amis. Oh, t'allais à dire quelque chose à quelqu'un. Là, clac. On oublie tout le monde. Et même dans des grandes assemblées comme ça, on est obligé. Excusez-moi, pardon, je voudrais sortir, quoi, parce que tout le monde est dans les allées. Donc, il passait. Vous rendez compte ? Alors je crois que quand quelqu'un vient dans une assemblée comme ça, n'oublions pas qu'il est là. Nos frères et sœurs, nos amis, avec qui, bien sûr, on a beaucoup d'affinités, on pourrait courir à la réunion finie pour discuter avec eux. N'oublions pas qu'il y a quelqu'un qui est là.
Amen.
De nous intéresser à lui. Hein, que le Seigneur nous aide. Alors, on aime ceux que nous admirons. Ben oui, un peu, mais ce n'est pas le véritable amour, ça. Puis on ressent quelquefois quelque chose pour un malheureux. C'est ce qu'on appelle l'amour de pitié. Mais ça, ce n'est pas l'amour vrai. Il y a la flatterie aussi. Oh, ben, bien sûr. Ça, la flatterie, quelquefois, le flatteur, il n'a pas que des bonnes pensées, hein. Vous connaissez le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché, donner à son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléchée, etc. Non. Il lui a tenu un langage qui est un langage de flatterie. Hein. Bah oui, mais... Ah oui, vous savez, ça se fait, ça... Non. Mais le flatteur n'a pas toujours toujours la volonté de tromper non plus. Hein? Quelquefois, il y a le désir aussi d'être agréable, d'être gentil. Eh bien oui, de faire plaisir, mais sans être vrai. Alors si on n'est pas vrai, c'est pas ça. L'apôtre Paul pouvait dire qu'il n'avait jamais usé de paroles flatteuses. Voilà. Alors on peut aimer par devoir. Oh, je vais faire des efforts, je vais l'aimer. Eh bien ça vaut rien. Ça vaut rien du tout. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Il faut que je boive à la source. Il faut que je boive à la source pour être rempli. C'est alors que l'amour divin répandu en moi par le Saint-Esprit va produire un débordement. Et c'est normal, on le comprend bien, notre vase il est tout petit, mais quand le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu qui a une dimension spirituelle, oh, ça déborde. Ça va déborder autour de nous, bien évidemment. L'amour de Dieu, il a vraiment débordé à la croix. Quand on pense que Jésus-Christ est mort pour des pécheurs, pour des rebelles, vous vous rendez compte? Pour des gens comme moi? Vous, vous êtes bien même. Je voudrais vous raconter un petit truc vécu quand j'étais gamin. Je suis allé à la colonie à Embrun. Je crois qu'Yvonne y est allé aussi. Moi, c'était en 1951. Ah, oh, c'était hier, parce que. Ouf. Avec Marcel le filâtre, Josette. Ah, Marcel. Non, c'est pas ça. Me trompe, enfin c'était le frère le filâtre. Bon. Il y a eu un dimanche, la colo durait un mois et demi à l'époque, on arrivait après juillet, jusqu'à fin août. C'était au mois d'août, il me semble bien. Il y a eu la visitation de l'esprit sur la colo. Oh, extraordinaire, là tous les gamins. Oh, extraordinaire, on a besoin de ça, tiens. On est dans les derniers temps, il y a beaucoup de tiédeur aujourd'hui. Seigneur, rends-nous bouillants. Rends-nous bouillants, Seigneur. Alors, il y avait un gamin à la colo, je ne le supportais pas. Bon, j'avais 13 ans à l'époque. Je ne pouvais pas l'encadrer, je ne pouvais pas le voir en peinture, comme on dit. Et après cette visitation, je le rencontre dans l'escalier, j'avais envie de l'embrasser. Oui, authentique. Mais en toute pureté, en toute honnêteté, parce qu'aujourd'hui, bon, incroyable. C'est l'œuvre du Saint-Esprit.
Oui, tout à fait.
Qui nous appelle à aimer. Que le Seigneur nous aide. Il faut remarquer que beaucoup ont opposé l'amour et la vérité. La parole de Dieu, c'est un tout indissociable. On ne peut pas séparer l'amour de la vérité, de la sainteté. Non. La parole de Dieu, c'est un tout. Et quand on la coupe en rondelles, on finit de grandir. C'est d'ailleurs ce que nous dit Éphésiens 4:15. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Alors, professer, c'est avouer, c'est exercer, c'est proclamer, c'est enseigner. Il y a toute cette pensée-là dans le mot employé dans le texte. Luther, à l'époque, il appelait amour maudit, tout amour qui portait atteinte à la vérité ou la neutralisait, même s'il se masquait sous l'aspect le plus pieux. Il appelait ça un amour maudit. Voilà. Alors certains rêvent d'une union de croyants, sur la seule base de l'amour. Quelle folie! Je me souviens, moi, un jour, je suis allé à une inhumation, il y a un monsieur qui marchait avec moi jusqu'au cimetière, et ce brave homme me parlait de l'amour de Dieu. Il était là, parti dans une sorte de chose sentimentale, un peu de rêverie, l'amour de Dieu. Dieu, c'était le bon père qui regardait rien, qui voyait rien, mais qui était gentil avec tout le monde, etc., qui ne voyait pas le péché, on a l'impression qu'il pardonnait même sans repentance. C'était un truc pas possible, c'était un truc sentimental, c'était affreux. Et son discours a changé du tout au tout quand je lui ai parlé, moi, de l'amour, de la vérité. Et j'ai eu l'impression qu'à ce moment-là, il m'aimait beaucoup moins. Il m'aimait beaucoup moins. Oh, au nom de la vérité, on a fait ci, on a fait ça. Il n'est pas possible d'avoir l'amour de Dieu dans notre cœur et de ne pas aimer la vérité. C'est pas possible. C'est pas possible de ne pas aimer la parole non plus. Hein? Quand on aime la parole, d'ailleurs, on ne fait pas de tri dans la parole. Hein? On ne va pas choisir à quoi on va obéir et à quoi on ne va pas obéir. Bah, bien sûr que non, la Bible, ce n'est pas un supermarché. On vient avec son caddie, puis on prend ce qu'on veut, et puis voilà. Puis le reste, on le laisse. Un amour qui fait fi de la vérité, c'est une imitation diabolique. Certains ont même dit, moi, si c'est la Bible qui nous divise, ah ben, c'est pas compliqué, laissons la Bible de côté. Quelle folie! C'est oublier la parole, la prière d'ailleurs de Jésus dans Jean 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. D'ailleurs, Seigneur se personnifie dans la vérité, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Celui qu'on a appelé d'ailleurs l'apôtre de l'amour, Jean. Il a écrit par exemple, Jean, chapitre 1er, premier épître de Jean, chapitre 1er, verset 1er, l'ancien à Kyrielle élu à ses enfants, que j'aime dans la vérité. Que j'aime dans la vérité. Hein? Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais tous ceux qui ont connu la vérité. Alors, l'amour et la vérité, ils sont, on pourrait dire, indissociables. C'est l'équilibre spirituel, hein. La vérité abaigne dans l'amour, abaigne dans la sainteté. Il est bon de nous interroger, d'ailleurs en ce qui concerne la fin des temps, nous sommes arrivés, hein. Certainement, l'heure est bien avancée. Hein. L'heure est bien avancée. Souvenons-nous de ce que Jésus a dit. Matthieu 24, 12, parce que l'iniquité se sera accrue. On a l'impression que l'iniquité s'accroît de plus en plus. Hein. Même nos lois deviennent invraisemblables. La charité du plus grand nombre se recroidira. Mes frères et sœurs, combien nous avons besoin de veiller? Nous avons besoin de vivre devant le Seigneur, de compter sur sa grâce. Le Seigneur aussi s'est interrogé s'il allait trouver la foi sur la terre. Moi, j'ai l'impression, bon, moi, je ne vois rien affirmer, hein, je ne sais pas tout, mais j'ai quand même l'impression que la foi, il y a 20-30 ans, elle était plus spirituelle qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a affaire très souvent, même dans les églises, à une foi qui est sentimentale. C'est la foi de l'âme. C'est plus la foi qui a cette dimension de l'esprit qui nous vient de la parole de Dieu. La foi nous vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. La parole de Dieu est spirituelle. La foi, elle a cette dimension spirituelle. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est souvent sentimentale. Alors quand arrivent les pépins, les difficultés, bien sûr, la foi sentimentale, elle ne tient pas le coup. Quoi. Bien sûr. Que le Seigneur nous aide. Beaucoup, c'est vrai, ont oublié que Dieu est parfait, que sa justice est parfaite, Dans sa justice, Dieu condamne le pécheur. Il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais dans son amour, amen, dans son amour, il donne un sauveur. Et on pourrait dire qu'en quelque sorte, Dieu se donne pour le pécheur repentant. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alors, la charité supporte tout. Ah, 1 Corinthiens 13, 7. J'ai regardé la traduction en français courant. Ce n'est pas le français en courant, hein. C'est le français courant. Pas pareil. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Bon, l'amour ne renonce jamais. Et pourtant, est-ce que ça vous est jamais arrivé d'être irrité après quelqu'un? Non?
Oui, ça
vous est jamais arrivé. D'avoir l'impression que vous n'avez même plus une seule de parcelle d'amour à lui donner, tellement il vous a agacé. Hey! Mais, aïe, aïe, aïe. Ça arrive, hein? Et puis même, quelquefois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, d'avoir le désir de se venger qui mûrit tout doucement, là, c'est un mauvais fruit, ça, qui mûrit tout doucement, qui grandit. Oh, il ne perd rien pour attendre. Oh, de quel bois je me chauffe, celui-là. Aïe, aïe, aïe. Alors cette attitude-là, bien sûr, elle est humaine, vous le savez très bien, mais elle ne correspond pas du tout à la manifestation d'amour à laquelle la nature divine nous appelle. Vous savez, bon, je peux parler encore un moment, non? Ça va? Oh, ça va aller?
Oui, ça va.
Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du petit gamin qui habitait près de la forêt. Alors un jour, il a cru entendre la voix d'un autre enfant. Alors il a crié bonjour et alors a entendu un faible bonjour qui est revenu. Et puis il a crié des mauvais propos. Et puis l'autre, il a répondu aussi des mauvais propos. Alors il était trop jeune pour comprendre que c'était l'écho de sa voix. Hein? Alors il a rapporté à sa mère sa conversation avec le mauvais garçon qui était dans la forêt. Alors sa mère lui a proposé de retourner, hein, dans la forêt et puis de parler gentiment, mauvais garçon, pour voir s'il réagirait de la même manière. Et puis l'enfant, bien sûr, il s'est aperçu que ses bons propos, ses bonnes paroles lui revenaient avec bonheur, que lui revenaient des paroles pleines d'amour qu'il recevait, bien sûr, qui était la réponse à ce qu'il avait dit, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Que le Seigneur nous aide. Mais comment être animé de cet amour constant envers autrui? Laissez-vous constamment remplir par l'esprit. C'est le chemin. En remplissant constamment notre réservoir, en quelque sorte, si je peux m'exprimer ainsi, du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passerait finalement si le pilote d'un avion décidait de ne pas refaire le plein alors qu'il a encore une grande distance à parcourir? Ben, vous savez ce qui se passerait, il s'écraserait au sol. On peut dire que notre société aujourd'hui, elle est encombrée de débris, de relations qui se sont brisées parce que les gens ont vécu avec un réservoir vide, vide de l'amour divin. C'est dans la communion du Seigneur que nous trouvons le renouvellement d'esprit et d'amour nécessaire à cette vie qui est une si longue épreuve. C'est dans la contemplation du Seigneur que nous sommes transformés en la même image. C'est là qu'il se passe le miracle de la grâce, c'est que nous allons pouvoir déborder d'amour sur les autres, sur tous ceux qui nous entourent. Vous savez ce que Jésus a dit, bien sûr. Aimez vos ennemis. Aïe, aïe, aïe. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Vous croyez y arriver, ça, avec vos propres efforts? C'est pas possible, ça. C'est impossible pour l'être humain. On est bien d'accord. Mais il doit y avoir ce débordement sur les autres, ce débordement, dire naturel, qui est un débordement sans effort, puisque c'est un don du Saint-Esprit, ça déborde naturellement. Hein, c'est pas le résultat d'un effort, c'est le débordement de la nature divine qui est en nous. C'est ça. C'est là que le monde va voir la différence entre le chrétien et l'incroyant. Dans cette force d'aimer n'importe qui, même nos ennemis, même ceux qui ne nous aiment pas, même, qui nous haïssent. Et c'est là que le monde va voir les différences. Ils vont dire, voyez comme ils s'aiment, et voyez comme ils aiment. L'amour est plus fort que la mort, c'est dans le cantique ça, dans les cantiques. L'amour est plus fort que la mort. Alors il y a un texte que vous pouvez méditer chez vous si vous voulez, parce que c'est Éphésiens 3,14. Hein, vous pouvez le noter, moi je le trouve très explicite. C'est Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, verset 14. « Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. » 1. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. 2. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi. 3. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. 4. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. 5. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. 6. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Il y a là, je crois, matière à méditer pendant quelque temps. Hein. Non ? Moi, je vous exhorte à méditer sur ce passage-là, Éphésiens 3, 14. Alors, rejetons tout ce qui est médiocre, ce qui est mesquin, ce qui est vulgaire. Aspirons à déborder d'amour. Or, s'il nous arrive d'être lassés, regardons à la croix, souvenons-nous de l'amour qui a débordé pour chacun de nous en Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Alors je vous laisse un dernier verset. C'est Romains 8, enfin on va le lire. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, là, les choses à venir, hein. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus notre Seigneur. Amen. Alors, quels que soient les événements, c'est vrai que aujourd'hui, c'est pas toujours bien rassurant ce qui se passe dans ce monde, toutes ces violences chez nous, toutes ces violences, toutes ces guerres dans ce monde, Jésus revient bientôt.
Amen.
Nous avons besoin de nous approcher plus près du Seigneur, qu'il nous remplisse de son amour.
Hein?
Que le Seigneur nous trouve, non pas avec des cœurs secs, avec des cœurs remplis d'amour quand il va revenir, qu'il nous trouve avec une foi vivante.